France Inter. Le masque et la plume. Cinq films en salle, plus des coups de cœur, tel est le programme du Masque, avec quatre critiques face au public du théâtre de l'Alliance Française. Voici donc Muriel Joudet du journal Le Monde, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles, Florence Colombani du Point et Pierre Murat, tel qu'on lui-même. Il sera question d'À bout de souffle de Godard grâce au film de l'Américain Richard Linklater qui s'intitule Nouvelle Vague. Il sera question de course-poursuite et d'intelligence artificielle dans un Paris futuriste avec Chien 51 de Cédric Jiménez. Au programme figurent aussi Météor, deuxième long métrage d'Hubert Charuel, Deux pianos d'Arnaud Desplechin et du film punk du cinéaste roumain Radu Jud. C'est Dracula des cinémas dans l'oreille. Bonjour, bienvenue. Voici le masque. On n'a pas vu le même film, écrit Jean-François Gombert de Digne-les-Bains. Cet auditeur réagit aux critiques positives du masque pour Une bataille après l'autre de l'Américain Paul Thomas Anderson. Pour rappel, le film met en scène des activistes de la gauche radicale face à des militants d'extrême droite aux États-Unis, avec Leonardo DiCaprio et Sean Penn à l'affiche. Et vous êtes très nombreux à exprimer des avis négatifs sur ce film. Le même Jean-François Gombert cité plus haut explique « DiCaprio hurle à tue-tête hasta siempre la révolution, sans que l'on sache à qui il croit et de quoi il cause. Parce que la révolution, Paul Thomas Anderson s'en fiche. Claude Denet de Gap déplore des révolutionnaires présentés comme des illuminés, dont l'engagement est discrédité et mis dos à dos avec l'appareil répressif policier américain. Pierre-Laurent Boudet de Bruxelles, quant à lui, est choqué par ces personnages de révolutionnaires inconséquents, voire stupides, à l'heure où l'expression d'une opposition politique est menacée dans l'Amérique trumpiste. Toutes et tous, vous évoquez aussi des acteurs qui, je cite, en font des caisses, et depuis les Alpes-Maritimes, Fanny Tranche, Sean Penn est au-delà de la caricature. S'il a un Oscar, je fais la révolution. Je termine la lecture de vos courriers par un enthousiasme général pour Un simple accident de Jafar Panahi, qui en plus de remporter la Palme d'Or à Cannes, connaît un très bon démarrage en salle. Vous citez Racine, Shakespeare, Beckett, rien de moins, pour parler de ce film. Bruno Longchamp de Dole me semble résumer vos courriers en écrivant « Je suis fier qu'un simple accident ait été choisi pour représenter la France aux Oscars. Vive le cinéma !» On commence avec Nouvelle Vague, du cinéaste américain Richard Linklater, Nouvelle Vague, et le film hommage d'un Texan au tout premier long-métrage d'un réalisateur franco-suisse, à savoir À bout de souffle, de Jean-Luc Godard. Hommage n'est pas le bon terme d'ailleurs, parce qu'il s'agit plutôt de faire revivre l'esprit et l'élan qui ont conduit à la réalisation d'À bout de souffle dans le Paris de l'année 1959. Pour ça, Richard Linklater prend le parti assez périlleux de la reconstitution en noir et blanc, avec deux jeunes comédiens inconnus jusqu'ici, dont Guillaume Marbeck, qui se voit confier son premier rôle au cinéma en incarnant rien de moins que Jean-Luc Godard. Truffaut, Chabrol, Gene Seberg, tout le monde est là, mais aussi des figures moins connues du grand public, comme Pierre Rissian, l'assistant de Godard, ou Raoul Coutard, chef opérateur connu des cinéphiles. C'est donc l'histoire d'une bande de jeunes qui révolutionne le monde en images avec insolence et humour, parce que l'essentiel, c'est de s'amuser, comme disait Belmondo. Et toi, tu dis quoi, Muriel ?
Moi, je trouve le film assez bouleversant. Je l'ai vu deux fois parce que j'étais pas sûre de ce que j'avais vu. Je pense qu'il peut y avoir un malentendu devant le film. On peut se dire c'est un biopic qui reconstitue poliment cette époque et voilà, qui, pour chaque personnalité représentée, trouve l'acteur qui coïncide le plus physiquement. Mais je pense qu'il faut vraiment aller, comme souvent chez Linklater, en profondeur et ne pas s'en tenir à la surface, parce que Linklater est quelqu'un qui fait un cinéma qui est théorique, mais qui l'est de manière presque discrète et surtout pas du tout intimidante. Et pour moi, c'est vraiment un film qui réfléchit à ce qu'est le biopic, qui est presque une méditation sur le biopic, mais aussi sur qu'est-ce qu'un premier film, qu'est-ce que ça libère comme énergie, qu'est-ce que c'est Jean-Luc Godard, mais pas tant Godard qu'À bout de souffle. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est ce petit déplacement, et le film vraiment procède par déplacement.
Ce serait un biopic de film.
Un film au pic, quelque part, c'est exactement ça. Et ça lui permet de ne pas fétichiser les personnages, et surtout Godard, qui est quand même, il y a toujours un côté Saint-Godard qu'on n'aime pas du tout et qui peut être intimidant. Et il n'est pas là pour ériger des statues, il n'est pas là pour prier le dieu Godard, il est là pour dire un premier film, et surtout À bout de souffle, ça libère une énergie et je vais essayer de retrouver cette énergie. Et cette énergie, elle est à la fois celle d'un auteur, mais aussi elle est collective. Et je trouve que Linklater ne filme pas tant les hommes que les idées qui circule entre les hommes, l'admiration qu'il y a entre les hommes, l'émulation, la concurrence. Le film s'ouvre vraiment sur un Godard qui a 30 ans et qui se dit...
Je suis en retard par rapport à Truffaut, Chabrol, qui ont déjà sorti leur premier film. Moi, j'ai rien fait.
C'est-à-dire, tout part d'une envie...
Un Godard qui doute.
Voilà, qui doute, qui est parfois un peu petit con, qui est parfois philosophe, qui est parfois un peu génie, mais qui surtout aspire l'énergie des autres. Il aspire l'énergie de Rossellini. Il y a une superbe scène en voiture où il raccompagne Rossellini qui lui donne les clés, en fait, d'À bout de souffle. Et je trouve ce geste de filmer les idées, de filmer l'énergie d'un premier film, et surtout de la part d'un cinéaste de 65 ans qui a fait je ne sais pas combien de films, vraiment magnifique. Et surtout ce qu'il fait de ces jeunes acteurs français. Alors moi, je dois dire, ça fait de très longtemps que j'ai pas vu des acteurs français jouer aussi bien, et j'ai dû attendre un cinéaste texan qui ne comprend rien au français pour voir cette justesse dans le jeu. C'est aussi un truc sur un texan qui arrive en résidence à Paris, qui fait un film qui n'est pas dans sa langue, et tout ça me bouleverse, mais d'une manière très très discrète, très en sourdine.
Est-ce que c'est une énergie qui t'a atteint, toi, Pierre ?
Non, mais je suis incompétent pour parler de ce film, parce que j'ai plein d'amis comme Muriel qui en parlent aussi bien qu'elle vient d'en parler. Et moi, je suis resté, mais de marbre. C'est-à-dire que ça s'est joué pour moi dès les première seconde, vous savez, il y a donc des gens comme ça qui regardent dans une salle et puis il y a marqué dessous qui
c'est.
Hein,
c'est bon. Très beau,
et puis brusquement, j'ai vu apparaître François Truffaut. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je ne peux pas adhérer à ça. Je ne peux pas. C'est pas de la faute du comédien. Hein, je comprends rien. Et ensuite, le pire, ça a été le comédien, très bien aussi, c'est pas contre lui que j'en ai, mais qui est chargé de jouer Jean-Paul Belmondo. C'est épouvantable pour moi. Il singe Belmondo. C'en est gênant. Alors, je comprends bien, je suis habitué au cinéma. Je sais que tout est faux dans le cinéma. Hein, je sais ça. Mais la magie du cinéma, c'est que brusquement, tout ce qui est faux, au bout de 5 secondes, 6 secondes, 10 secondes devient vrai. Et là, je suis resté, mais constamment sur tout est faux, tout reste faux. Alors le pire pour moi, c'est Gene Seberg, parce qu'évidemment, j'ai une passion pour Gene Seberg. Et je vois une actrice qui est très bien et qui fait des efforts pour ressembler à Gene Seberg. Et tout ça, je me dis, mais pourquoi je préfère, plutôt que des faux, je préfère voir des vrais, je préfère revoir À bout de souffle, je préfère voir les films de Gene Seberg, je préfère aller voir tous les films de Belmondo que j'aime tant. À quoi ça me sert? C'est comme dans un musée où on va voir une exposition Van Gogh et on vous dit finalement, ah ben non, vous allez pas voir des Van Gogh, mais des faux Van Gogh. Mais je m'en fous. J'ai eu la même réaction que quand Marina Foïs voulait nous faire croire il y a 15 jours dans le film de Diane Curis qu'elle jouait Simone Signoret, et je disais...
Ah mais on va pas partir dans ce débat, parce que déjà, il faut qu'on préserve le temps pour chacun.
Je suis désolé, parce que je suis sûr que Muriel a raison, c'est très bien, mais j'y arrive pas.
Jean-Marc ?
Je pense vraiment tout le contraire de Pierre. Pour moi, le film est miraculeux. C'est-à-dire que ce procédé que tu n'aimes pas, moi, je le trouve magique. C'est-à-dire qu'effectivement, chaque personnage est présenté comme dans un portrait figé, face caméra, avec le nom qui s'écrit. Et tout à coup, il rentre dans la fiction. Et à chaque fois, le film réussit à inoculer une étincelle de vie et à faire passer le personnage du musée à la vie, à ramener le mannequin de cire à la vie, parce que tout à coup il est filmé sa jeunesse, dans quelque chose d'extrêmement incarné vivant. Il y a vraiment une sorte de miracle d'incarnation dans le film, que moi je trouve prodigieux, et puis c'est un film aussi passionnant sur la création. C'est-à-dire que ce que filme Linklater, c'est que entre un chef-d'œuvre et un navet, il y a vraiment une frontière très 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 ténue, et que moi ça me fait penser à Ed Wood de Tim Burton. C'est-à-dire que Godard est un peu montré comme Ed Wood, ce spécialiste des navets dans les années 50, qui dans le film de Burton raconte.
C'est audacieux ce que tu dis.
Oui, c'est très audacieux.
Donné, Orson Welles.
Je me demande
que
si Burton c'est pas vrai d'ailleurs.
C'est enfin, que finalement ce Orson Welles et Ed Wood, c'était pas si différent que ça. Et la manière dont il filme un gonard très très jeune qui fait un film qui il se trouve qu'il a été une révolution, mais ouais. qui aurait pu aussi bien être une catastrophe. Je trouve que pour le coup, cette espèce de vulnérabilité-là de la création, elle est extrêmement bien montrée. Ça tient beaucoup à l'acteur principal, Guillaume Barbat, qui est prodigieux, parce qu'on sent qu'il il joue à jouer Jean-Luc Godard, ouais, oui. et que Jean-Luc Godard, son personnage, lui-même, joue à être réalisateur, et qu'il y a un esprit d'enfance dans le film, qui est absolument gracieux, aérien, irrésistible.
C'est roué, c'est un film roué, c'est pas du tout naïf. C'est ça qui me gêne.
Moi, je trouve pas du tout le film malin. Au contraire, je trouve qu'il a une candeur, oui. une fraîcheur, une innocence qui sont absolument irrésistibles.
Oh, tu parles, Charles.
Tu parles, Charles. Ça, c'était une citation de Pierre Murat. Florence. En tout cas, je voulais juste préciser que malgré cette reconstitution en noir et blanc, etc., on n'est jamais dans la nostalgie.
Non, on n'est jamais dans le musée, vraiment jamais.
On est dans le présent, en fait.
Dans un élan. Florence.
Je trouve qu'on n'est pas dans le musée, mais on est dans le fétichisme. Et je trouve pas ça très juste de nier au film son fétichisme qui passe justement par cette recherche de sosie pour jouer les acteurs. Pour moi, c'est Jean-Paul Belmondo où je coince complètement parce que je trouve que l'acteur qui joue Jean-Paul Belmondo n'a pas la grâce, l'insolence, la présence magnétique de Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle et pas seulement d'ailleurs dans tous ces films-là de cette époque. Donc je trouve qu'il y a quand même du fétichisme parce qu'il y a ce désir de reconstitution, y compris, et c'est magnifiquement fait, dans le Paris de l'époque, parce qu'il y a des tonnes de séquences, notamment sur les Champs-Élysées, où il y a eu un travail certainement très complexe de post-production pour qu'on ait l'impression d'être dans un Paris qui a en fait complètement disparu. Donc, pour moi, c'est une démarche fétichiste par excellence, c'est-à-dire qu'il cherche à recréer l'atmosphère, les images, l'esprit du film À bout de souffle.
Mais c'est pour un moi, fétichisme le problème... ludique et oui. extrêmement taquin. Pas alors, du tout sacralisant.
On peut aimer ce fétichisme-là, moi je résiste, mais je comprends qu'on l'aime. Ce qui me gêne plus dans le film, c'est la représentation du cinéma que le film donne, et à travers À bout de souffle, pris comme cet exemple de film absolument révolutionnaire, ce film qui refonde complètement la grammaire du cinéma, parce qu'il me semble que le miracle d'À bout de souffle, c'est pas le tournage d'À bout de souffle, c'est le montage. Or ça, on en parle à peine dans Nouvelle Vague de Richard Linklater, c'est-à-dire que ce qu'on voit essentiellement, c'est un tournage où, en effet, on débarque sans scénario, on ne sait pas trop ce qu'on va tourner, on fait trois blagues, on bouge la caméra de façon étrange et tout ça, tout le monde rigole, c'est drôle, mais c'est pas ça qui a fait la révolution d'À bout de souffle. Donc moi, j'ai l'impression d'être flouée sur la promesse du film qui est de me raconter qu'est-ce que c'est le miracle À bout de souffle, qu'est-ce que c'est la révolution Jean-Luc Godard. Je ne le trouve pas dans ce film.
Une intervention d'un spectateur ou d'une spectatrice pour Nouvelle Vague de Richard Linklater. Ça faisait longtemps. Bonjour Guy.
Alors je ne dirais pas miraculeux, mais si, mais pour moi c'était jouissif. Absolument jouissif. C'est-à-dire que j'adore quand les noms des protagonistes sont mis à chaque fois qu'ils apparaissent pour la première fois à l'écran. J'adore quand les jours de tournage sont écrits. Et contrairement à ce que vous dites, le film ne se finit pas au dernier jour de tournage, mais au montage. Et il explique le montage, pourquoi il y a les cuts, etc. Il explique aussi pourquoi il n'y a pas le non raccord. Il est extraordinaire là-dessus. Et puis alors, contrairement à ce que dit Pierre, Jane Seidberg, je la trouve pas très bonne au début. Et on l'explique presque pourquoi, c'est qu'elle est pas à l'aise. Elle sait pas ce qu'elle tourne.
Elle est incarnée par Zoé Deutsch. C'est précise.
Non. Elle ne sait pas ce qu'elle tourne parce que les dialogues sont pas écrits.
elle est quand même incarnée par
et
Zoé Deutsch.
Et elle devient. Je vous ai pas écouté, Rebecca.
Voilà, c'est ça.
Devient de plus en plus belle, de plus en plus cyborg à mesure que le film se tourne. Voilà. Et la bande musicale est excellente. C'est vraiment jouissif. Allez-y. Et alors, ce que je voudrais, c'est coupler ce film avec le vrai film de Godard.
Du Paris de l'année 1959 avec Nouvelle Vague, on passe à 2045 avec Chien 51, le nouveau film de Cédric Jiménez. Après les succès publics de Bac Nord et de Novembre, Cédric Jiménez a librement adapté le roman homonyme de Laurent Godet. Nous sommes dans un Paris futuriste, je l'ai dit, et la ville est découpée en trois zones qui séparent les classes sociales. La sécurité de la capitale est assurée par des drones et par une intelligence artificielle qui s'appelle Alma. L'inventeur d'Alma est assassiné et deux policiers sont chargés de l'enquête. Zem, un flic sur leur tour, incarné par Gilles Lelouch, et Salia, jouée par Adèle Exarchopoulos. Louis Garrel, Romain Duris, Valeria Bruni-Tedeschi figurent aussi à l'affiche. drone, course-poursuite, IA, est-ce que tu as marché, est-ce que tu as roulé, est-ce que tu as volé, Pierre?
Ben, moi, que je ne m'attendais, que je n'espérais. Moi, j'avais bien aimé Bac Nord, qui avait été considéré un peu, par beaucoup, comme un film facho, parce que je trouvais que c'était un film que je pensais assez réaliste sur ce qui se passait dans certaines villes avec les flics. Et là, je trouve qu'il se plante un peu parce que il me semble que c'est un cinéaste réaliste et la SF lui va pas très, très, très bien. Alors, si, ce que j'ai aimé quand même, c'est les courses-poursuites, parce que il y a un rythme absolument formidable, et c'est du très très bon cinéma commercial, et la reconstitution de Paris que je trouve, dans la SF, que je trouve assez discrète. Mais ce souci de rythme, cette réussite de rythme, finalement, envahit tout, y compris l'intrigue et les personnages. Et à part Gilles Lelouch, qui est vraiment très bien, je trouve, les autres n'existent pas. Enfin, Adèle Exarchopoulos existe à peine, et Valéria Bruni-Tedeschi, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Que le personnage devienne le rythme d'un film, ça me paraît quand même problématique.
Jean-Marc.
J'avais vraiment l'impression de voir un film du XXe siècle sur un XXIe siècle encore à venir. C'est-à-dire un film qui nous raconterait 2040, mais qui aurait été fait en 1988. Il y a vraiment un élément de ringardise dans le film. On pense à beaucoup de choses des années 80-90,
comme quoi,
de Blade Runner à Matrix, tout le pitch sur l'intelligence artificielle qui prend le pouvoir, c'est évidemment Terminator. Donc on a l'impression de voir non pas un film, mais un mood board, c'est-à-dire ces carnets où il y a plein de petites vignettes, où on voit ce à quoi a pensé le cinéaste, mais le film reste encore à faire. Enfin, il n'a pas accouché de son film, on voit juste clignoter les signes auxquels il pense. Alors moi, je trouve que c'est du très mauvais cinéma commercial, et que c'est souvent le problème du cinéma français industriel. C'est-à-dire qu'il est en dessous des critères minimums de professionnalisme. Moi, je trouve le film hideux, mal monté, mal filmé. Il suffit de voir, par exemple, en ce moment, on peut voir Tron, qui est pas un très très bon film, mais qui a du travail extrêmement soigné. Là, je trouve que, alors que c'est très très cher, tout semble cheap et bâclé. Moi, je trouve le film assez désastreux.
Florence.
Oui, je comprends tout à fait ce que veut dire Jean-Marc. Moi, j'ai même pensé à Subway de Luc Besson, parce qu'il y a tout un passage dans des tunnels de métro désaffectés. Et il y a ce côté, cet esprit années 80, il est vraiment là. Là où je trouve que le film vaut quand même mieux que ce que tu dis, c'est qu'il y a une tentative d'avoir une atmosphère, d'avoir une esthétique. Alors l'histoire, c'est que Paris est quand même divisé en sections. Il y a section numéro 3 qui est vraiment des sortes de bidonvilles où les gens vivent très mal. Et puis dans la section numéro 2, c'est un peu mieux. Et puis la section numéro 1, c'est l'île de la Cité, quoi, ou l'île Saint-Louis. Et clairement, c'est là pour nous dire que notre société est déjà comme ça. Donc le côté un peu... ringard, finalement ça marche un peu parce que ça révèle ce que veut dire le film sur la société qui est c'est pas du futur, on y est déjà. Le problème du film, je trouve, c'est que à un moment il y a l'intelligence artificielle qui dit recherche de scénario, et en effet on se dit c'est un peu recherche de scénario, parce que le scénario du film, c'est un polar très basique où on avance de petit indice en petit indice, parce qu'on trouve, on ouvre un sac à dos, on trouve un truc. Vers la fin du film, malgré toute cette technologie quand même très sophistiquée, Gilles Lelouch arrive à s'introduire chez quelqu'un, je ne dirais pas qui, et ce quelqu'un lui dit mais comment as-tu fait pour rentrer chez moi? En fait, il a juste casser la vitre et ouvrir la poignée de l'intérieur. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que tout cette débauche de technologie pour ça? Et je pense que le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas des personnages et une histoire assez consistante à inscrire dans cette vision qui n'est pas si inintéressante du Paris futur présent.
Muriel.
Oui, non, ça fait un peu cher à la série B, parce que c'est quand même 42 millions d'euros. Moi, je me suis... Et en fait, j'avais l'impression d'être devant un film qui passait son temps à étaler le fric, quoi. Et pour moi, le film se résume vraiment au fric qu'il a et au star system. Et en fait, Jiménez est tellement conscient que les gens vont se ruer sur un film avec Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch, qu'en fait, il n'y a plus de travail, ni des personnages, ni de caractérisation. Enfin, on a Exarchopoulos qui a une sorte de coupe de cheveux ou de perruque qui est très gênante pendant tout le film. Mais... Je rejoins Jean-Marc sur le fait qu'il y a comme ça une digestion de tout un imaginaire hollywoodien, tant et si bien qu'on se demande quel est l'imaginaire à l'intérieur de ça de Jiménez. Et moi, je pense qu'il y a un endroit qui m'a beaucoup gênée, c'est que je pense qu'il y a une sorte d'érotique du répressif chez Jiménez. C'est quelqu'un qui vraiment adore filmer les technologies de surveillance, qui adore filmer les populations surveillées, qui adore le bruit des drones qui surveillent les populations. Il adore ça depuis trois films, il nous raconte ça. Et donc, moi, même quand il filme une scène de fête, ce qui l'intéresse dans la scène de fête, c'est quand la police débarque, qu'il y a des coups de feu et que tout le monde est en panique. Et donc, moi, cette sorte de, ce goût de l'ordre répressif commence à me gêner un peu parce que le film fait mine de nous raconter, voilà, il y a une sorte d'élan révolutionnaire à la fin. Alors que c'est l'inverse que nous raconte le film, il est complètement hypocrite. La seule chose qui intéresse Jiménez, c'est ses babioles technologiques et sa surveillance.
Quelqu'un souhaite intervenir et participer à ce débat critique sur Chien 51 ? Oui.
Bonsoir. Moi, j'étais assez déçu par ce film et puis aussi frustré par rapport à ce que j'attendais. La grosse faiblesse de ce film, à mon avis, c'est le scénario. Et je pense que Jiménez a été dépassé par son sujet. Effectivement, il parle de plein de choses, mais il ne raconte rien. Et il y avait deux thèmes quand même qui étaient essentiels. C'est le problème du zonage des villes et de la ségrégation sociale. Et puis l'utilisation de l'IA dans la sécurité intérieure. Avec des thèmes comme ça, on attendait un scénario beaucoup plus solide. Et on l'a pas. Et sans scénario solide, il peut pas y avoir de bon film.
Après Chien 51, on passe au nouveau film d'Arnaud Desplechin intitulé Deux pianos avec un trio de comédiens, Charlotte Rampling, François Civil et Nadia Tereskiewicz. François Civil est Mathias, un pianiste qui s'est exilé au Japon plusieurs années et qui décide de revenir à Lyon, sa ville d'origine. Ce retour à Lyon est provoqué par la demande d'une femme. Elle s'appelle Elena, elle est interprétée par Charlotte Rampling. Elle est pianiste, elle aussi. Elle fut la professeure de Mathias et elle souhaite le voir assurer plusieurs concerts à ses côtés. Mais pendant son séjour à Lyon, Mathias est confronté à l'incarnation de son passé. Il croit voir son double enfant dans un parc et il se retrouve nez à nez avec une femme qu'il a aimée, Nadia Tereskiewicz, à l'écran. C'est donc l'histoire d'un amour empêché avec Bach et Rachmaninoff, entre autres partitions. Florence.
Alors, Arnaud Desplechin est très hanté par le cinéma de François Truffaut et dans Le Dernier Métro, qui est un film qu'il aime et dont il a souvent parlé, Gérard Depardieu dit toujours aux femmes « Il y a deux femmes en vous ». Et là, il y a deux films dans deux pianos. Il y a La femme d'à côté, parce que cette histoire d'amour est pleine d'allusions à La femme d'à côté. Et elle est fondamentalement la même, c'est-à-dire que c'est ni avec toi ni sans toi. C'est l'impossibilité, malgré la passion, de vivre un amour. Et de l'autre, il y a cette relation de mentor à élève qui se joue entre Charlotte Rampling et le personnage de François Civil. Moi, j'étais très intéressée par ce deuxième film, beaucoup moins par le premier, d'abord parce que cette histoire d'amour passionnelle, c'est très beau quand on vous le dit comme ça, mais il faut que ce soit très incarné pour vibrer à ces sentiments-là. Pour croire à un homme qui s'évanouit quand il voit la femme qu'il a aimée, il faut vraiment être emporté par des personnages, par des acteurs. Et pour moi, ce miracle-là ne fonctionne pas du tout dans le film. Je pense que c'est une question d'alchimie, c'est une question peut-être d'acteur. Il me semble que le personnage que joue Nadia Tereskiewicz, avec tout le passé qu'elle a et des événements qui se produisent pendant le film qui sont encore plus lourds, aurait gagné à être plus âgée, parce que avoir ce passé-là quand on a, je pense, je sais pas, moins de 30 ans, ou en tout cas on a l'air d'avoir 29. Moins de 30 ans, c'est dur à croire. Donc tout ça fait que pour moi le film à la Truffaut qui est là, et je parle vraiment beaucoup de Truffaut, mais parce que on y pense tout le temps.
Mais on pense aussi à d'autres films de Desplechin comme Roi et Reine par exemple.
Oui, alors on pense aussi à Roi et Reine, et on pense aussi, moi j'ai plus pensé à Un conte de Noël. Avec le personnage de Catherine Deneuve, cette mère qui a du mal à aimer, parce que le personnage de Charlotte Rampling, c'est une forme de mère. C'est une professeure de piano qui a accouché du talent de son jeune élève. Donc là, on retrouve énormément de choses du cinéma d'Arnaud Desplechin, mais dans une greffe qui ne prend pas, à mon sens, de mélodrame, de grand mélodrame, plein de sentiments, avec des choses très fortes sur la filiation, sur le deuil. Et aussi sur la musique. Et ce que je sauverais, parce que j'ai trouvé ça très beau, c'est la façon dont il filme ses scènes de concert et dont il pense le montage en fonction de la musique. C'est très rare que les cinéastes fassent ça. Et là, c'est vraiment des moments de grâce, mais c'est très court. On aurait envie de retenir ces moments.
Pierre ?
Moi, je suis un fan de Desplechin. Je trouve qu'il filme toujours le même film, mais il arrive à être différent pratiquement à chaque fois.
Donc, tu as aimé ?
Oui, beaucoup, beaucoup. Parce que, par exemple, tu as parlé de cet évanouissement. Mais moi, je me fiche de savoir leur passé, etc. Je vois quelqu'un qui sort d'un ascenseur, brusquement, je ne sais pas pourquoi, et oh, surprise, il voit quelqu'un et il tombe évanoui. Alors, bien sûr Truffaut, bien sûr la femme d'acteur. Il y avait un autre évanouissement chez Truffaut, c'était Oscar Werner dans Fahrenheit 451 qui s'évanouissait aussi. Donc voilà, il y a une espèce de faiblesse chez les personnages des Pléchiens et en plus, sont des solitaires cernés par des ombres comme ça menaçantes, mais qui trouvent le plus souvent, il y a un de ces films qui s'appelle Roubaix, une lumière. Il n'y a rien de plus sombre que Roubaix, le film, et puis en même temps, il y a toujours une lumière. Et là, la lumière, c'est ou le métier ou bien la musique. Je trouve qu'il filme la musique de façon absolument formidable. Et moi, je trouve qu'entre cet enfant, brusquement, qui lui rappelle des trucs, cette femme, il y a une espèce de tendresse, il y a une espèce d'inquiétude, pratiquement à chaque plan. Bon, il y a peut-être 5 ou 6 minutes de trop sur 1h55, mais quand même, je trouve ça vraiment d'une élégance et d'une mélancolie qui me touche, moi, toujours.
Muriel. Oui, moi, c'est ce que tu as été touchée aussi.
Ça m'a beaucoup intéressée parce que Des Pléchiens m'intéresse toujours, mais j'ai eu. Et d'ailleurs, faut peut-être le rapprocher de Linklater, c'est-à-dire ça pose des questions ces deux films. C'est comment ça vieillit un cinéaste à 60 ans, quels films on fait. Je pense que Linklater est plus vieux que Des Pléchiens. Et là, c'est vrai que je trouve que Des Pléchiens répondent d'une manière décevante depuis quelques films, c'est-à-dire qu'il s'agrippe à son univers, à ses motifs, au détriment du public qui, en fait, c'est comme si lui, il était. Il croyait en ses mystères et c'est le dernier et le seul à croire encore en ses mystères. Et en même temps, je pense qu'il essaye aussi d'aller vers quelque chose comme James Gray dans le film. J'ai beaucoup pensé à James Gray. Je pense qu'il y a un problème d'incarnation. Déjà, François Civil n'est pas un acteur pour Des Pléchiens. Il fait le taf, on va dire ça comme ça.
Oh non, plus
mais
que ça.
Il y a quelque chose qui ne prend pas. Ça se voit qu'il n'y a pas eu une rencontre ni avec Nadia Tereskevitch et François Civil, ni entre Des Pléchiens et François Civil. Je le sens très fort. Et puis, il y a aussi un problème de croyance. C'est-à-dire qu'elle porte beaucoup de choses, comme tu le disais, sur son dos, Nadia Tereskevitch, alors qu'elle est très jeune. Elle doit être veuve, elle a un enfant qui a 8 ans. Et tout ça, vraiment, j'ai eu l'impression que Des Pléchiens ne se rendait même pas compte qu'il n'y avait plus de réel dans son cinéma. Il y a juste un truc que je sauverais, et ça, c'est quelque chose qui est toujours là chez Des Pléchiens, c'est sa manière de filmer les actrices. C'est un très grand portraitiste et amoureux d'actrices. Et là, ce qu'il fait avec Tereskevitch, je trouve, on voit qu'il a trouvé son Emmanuel De Vos numéro 2, et un peu de Marianne Denicourt, et ça se voit qu'il se passe quelque chose entre elle et lui, et avec la caméra surtout.
Jean-Marc, pour terminer,
Moi aussi, je trouve le film assez maladif, un peu patraque et pas très abouti. On a parlé de la femme d'à côté, et on y pense évidemment beaucoup, mais en même temps, c'est un peu le contraire, puisque ce serait des personnages qui ne seraient pas condamnés par leur passé, mais qui arriveraient à s'en libérer et aller de l'avant. C'est comme si on pouvait guérir d'une blessure amoureuse qu'on pensait inguérissable. Et moi, j'ai l'impression que le cinéaste, donc Arnaud Desplechin, est dans la même tension, la même problématique que ces personnages qui sont tiraillés entre une mémoire trop forte qui les engloutit et un désir d'oublier, d'aller de l'avant, avec la figure de Charlotte Rampling, dont le personnage est atteint d'une maladie dégénérative qui va lui faire tout oublier. Donc il y a le danger de la mémoire et le danger de l'oubli. Et j'ai l'impression que Desplechin lui est entre ces deux dangers. C'est-à-dire qu'on sent vraiment le désir de se régénérer, d'aller chercher des acteurs jeunes, de sortir de lui-même. Et en même temps, il est beaucoup plus encore que par Truffaut, il est hanté par son propre cinéma. Et on a l'impression que les fantômes de tout ce qu'il a déjà fait écrasent le film, l'envahissent, le cernent. Même les acteurs, en fait, on a l'impression que François Civil se débat avec le fantôme de Mathieu Amalric. Ouais. Et donc, c'est comme un film de transition qui n'arriverait pas complètement à trouver sa forme actuelle.
Après Deux Pianos, on va totalement changer de registre avec Dracula, par une figure du cinéma roumain contemporain, à savoir Radu Jud, qui a eu les honneurs d'une rétrospective au Centre Pompidou récemment. C'est le deuxième film en salle de Radu Jud en l'espace de 3 semaines seulement, puisque Continental 25 est sorti fin septembre. Et c'est le deuxième film du programme, avec Chien 51, où il est question de l'intelligence artificielle. Mais ce film-ci a été tourné à l'iPhone, en Transylvanie. Un cinéaste donc demande à une intelligence artificielle bon marché de lui proposer différentes versions de Dracula pour satisfaire des producteurs. Et le résultat est un film gigogne délirant qui mêle série Z, satire politique, animation bricolée, épouvante, sans hiérarchie aucune, mais avec un point commun, il faut le dire, énormément de pénis. Et mon tout est un geste punk de 2h50, quand même.
Et oui. Le choc.
Florence.
Ça dure 2h50, il y a 14 chapitres. Et c'est je sens que tu vas faire ce que je peux vous dire sur ce film qui va laisser totalement perplexe. Par moments, on pense au Monty Python, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de sketch délirant qui donne lieu à un autre sketch, qui enchaîne avec un autre. Et avec une vision de Dracula qui est quand même très, très liée, en effet, au potentiel érotique du mythe. Et à toutes les déclinaisons qu'on peut en avoir. J'ai bien aimé toute la partie où des touristes se rendent dans des sortes d'orgies avec un personnage costumé en Dracula et où il y a cette espèce de folklore transylvanien mais en même temps très bas de gamme ensuite les gens ont envie de poursuivre le pseudo-vampire dans les rues du village. C'est délirant, il faut vraiment rentrer dans cet humour, ce qui n'a pas été mon cas, ce qui fait que les 2h50 paraissent très longues. Et je pense bien qu'il y a des choses à piocher ici et là sur une vision de la politique, une vision de l'état de la Roumanie aujourd'hui, un rapport à l'éros, etc. Mais il faudrait vraiment creuser...
Un rapport aux images qui nous entourent, hein, de TikTok, YouTube, le cinéma, etc.
C'est ça, mais...
C'est ça, c'est cela, oui.
C'est
Pierre ?
Au bout d'une heure vingt, sur 2h50, au bout d'une heure vingt, il y a une demi-heure absolument formidable, c'est l'adaptation. Il adapte un roman fantastique roumain, le premier Dracula roumain. Bon, ça dure une demi-heure. Et alors là, c'est inventif, drôle. C'est tout à fait formidable. Pendant une demi-heure, on se dit, ah ouais, je comprends exactement ce qu'il a voulu dire. Puis ça s'arrête, puis ça repart. Et alors, tout le reste est assez braillard. Paillard, parce qu'en effet, ce mec est obsédé par les phallus petits et gros. Et tout le reste me paraît comme ça, une sorte de brouillon, quoi. C'est-à-dire, ah ouais, tiens, je vais essayer ça. Ah ben non. Mais on dirait, vous savez, ces romanciers ou ces romancières qui, actuellement, me semblent quelquefois publier leurs notes de frais ou leurs courses dans le genre, en croyant que c'est de l'art. Mais on évite de faire, enfin, quand on fait un film, on fait un film. On choisit pas, on dit, tiens, je vais peut-être faire ci. Ah ben non, tiens, je vais faire Frankenstein. Ça peut durer 3 heures de plus, 4 heures de moins. Mais, au bout d'une heure vingt, une demi-heure, formidable. C'est difficile d'y arriver au bout d'une heure vingt et de partir après, mais c'est ce que je vous conseille.
Jean-Marc.
Je suis d'accord avec Pierre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette espèce de Capharnaüm qui multiplie les fausses pistes, on nous retire le film qu'on nous fait miroiter, tout à coup, ça se stabilise. Ça dure même un peu plus d'une demi-heure. C'est plutôt 45 minutes,
je dirais, d'accord.
Ouais. Où tout à coup, c'est une histoire, cette adaptation d'un roman. Et moi, ça m'a fait penser à un film assez peu connu d'Antonioni qui s'appelle Le Mystère Oberwald, oui. Où Antonioni jouait, enfin, utilisait la vidéo, qui était un nouveau média, et il en faisait, avec une technologie très neuve, il en faisait un film bizarrement archaïque. Et de ce point de vue-là, le film de Radoujoud a cette étrangeté-là d'être un objet qui paraît à la fois très archaïque, avec des moyens très modernes. Après, il y a quand même un discours qui est très articulé il fait dériver l'idée du vampirisme à la fois pour faire une sorte de critique de l'appropriation culturelle, puisqu'il nous montre comment plus d'un siècle de pop culture a pillé une mythologie qui est née en Roumanie pour faire créer le motif de Dracula, et en même temps nous montrer comment la technologie est un vampire, puisque l'intelligence artificielle prend le sang de la création humaine pour le régurgiter. Tout ça se perd dans une sorte de labyrinthe, en fait, qui n'en finit pas, avec un humour paillard que moi je trouve quand même assez pénible et indigeste. Donc voilà, moi aussi j'étais assez perplexe.
Et toi, Muriel ?
Oui, non, mais on peut pas. C'est dur de reprocher à un film sa durée, mais là, de fait, la durée du film joue complètement contre lui. Et en même temps, il y a une sorte de profusion. Je pense, là, en vous écoutant, je me dis, il y a un truc un peu à la Jérôme Bosch, quoi, vraiment de profusion d'histoires, d'efflorescence d'histoires dans les histoires et tout ça. Sauf que ça marche pas, peut-être parce que je sens chez Radoujoud presque une il est très confiant en son geste et ça m'a gêné un peu dans le film. Et il y a juste un truc que j'ai aimé. Alors, au bout de 15 minutes, donc vous pouvez vous réjouir un peu plus rapidement. C'est ce moment où il y a plein d'images AI qui sont générées et qui se superposent les unes aux autres. Et c'est comme une sorte d'efflorescence comme ça d'images. Et là, je me suis dit, il a touché un truc sur l'idée que finalement, l'image générée par une intelligence provoque une sorte de pornographie. Et qu'en fait, la pornographie, c'est l'absence de point de vue humain sur l'image. Et là, il y a quelque chose qui se passe, une sorte de beauté dans la laideur absolue de ces images. Il y a quelque chose qu'il a trouvé, mais ensuite, voilà, ça se dilue beaucoup trop.
Après Dracula de Radoujoud, on termine avec Météore d'Hubert Charuel, qui s'est fait connaître il y a 8 ans, avec Petit Paysan, succès public et critique, auréolé de 3 Césars, dont ceux du meilleur premier film et du meilleur interprète pour Swann Arlo. Ce film-ci, Météore, est une histoire d'amitié entre Dan et Mika, deux jeunes gars à la marge, dans l'est de la France, à Saint-Dizier. Une nuit où ces deux-là se mettent la tête à l'envers, ils kidnappent un chat de concours pour gagner de l'argent et financer leur rêve d'installation à l'île de la Réunion. Résultat, le kidnapping de chat, par ces deux pieds nickelés, se termine au tribunal et le film change de ton parce que, à partir de ce moment-là, pour éviter une peine de prison, Dan et Mika doivent entamer une cure de désintoxication et fournir des feuilles de salaire. Le duo se retrouve alors à travailler pour Tony, un ami qui, lui, a réussi dans le BTP, et commence des jours et des nuits dans le décor angoissant d'une usine de déchets nucléaires. Dan et Mika sont interprétés par Idir Azougli et Paul Kircher. Quant au rôle de l'entrepreneur Tony, il est tenu par Salif Cissé. Jean-Marc ?
Moi, j'aime vraiment bien le film. Je le trouve extrêmement touchant. Il est assez différent du premier film d'Hubert Charuel, qui était un film très très efficace, construit comme un suspense. Là, le film va davantage dans des directions différentes, mais ce qui est vraiment beau, je trouve, c'est cette idée de raconter une histoire d'amitié avec tous les codes d'une histoire d'amour. C'est ce qui rend le film, à mon avis, assez bouleversant, de dire qu'une histoire d'amitié peut être aussi toxique, dangereuse qu'une histoire d'amour.
Et le film... Je précise juste que là, c'est pas la masculinité des personnages qui est toxique. Je dis ça parce qu'on le voit beaucoup par ailleurs. C'est l'amitié est toxique, mais c'est pas leur masculinité qui est en jeu.
C'est plus ce qui les unis, en fait, c'est plutôt une peur de l'âge adulte, une peur de la société, une peur des femmes qui sont extrêmement absentes du film, sauf dans des rôles soit de flics, soit de personnages de soignantes, mais il y a vraiment pas de femmes dans le film. Oui. Le film parle de cette peur de grandir et il filme à la fois la force du lien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments d'épiphanie dans le quotidien entre ces deux colocataires qui tout à coup font du rap en faisant le ménage, c'est vraiment très très joliment filmé, mais aussi la toxicité, la peur de l'extérieur qui les fait qu'ils se raccrochent comme un refuge l'un à l'autre. Et donc tout ça est très profond, servi vraiment par les deux comédiens qui sont formidables tous les deux. Donc j'ai des petites réserves. Par moments, je trouve le film un peu trop scénarisé. Je pense que 10 minutes avant la fin du film, il y a la vraie fin du film qui est très très sombre. Et je pense que les 10 minutes après, essaient de remonter la pente de leur noirceur. Je trouve ça un peu artificiel, mais malgré tout, le film m'a vraiment touché.
Florence.
Oui, moi j'ai été très touchée aussi par ce thème et par cette histoire d'amitié. En effet complexe, à laquelle on accorde, le film accorde un intérêt, un poids, comme on voit très rarement. Et en plus, c'est très bien vu, là, pour le coup, sur l'âge de la vie auquel ça se passe. Parce que ce ne sont pas des adolescents, ce sont des jeunes adultes qui pourraient ou qui devraient avoir trouvé leur place. Et en même temps, ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont dans cet entre-deux, dans une drôle de maison. On ne sait pas trop comment ils sont là, comment ils l'ont eu. Et tout ce qui touche à leur intimité, à l'intimité de leur relation, est très beau, très réussi. Et ça va, en plus, au-delà, ce thème de la toxicité dont tu parles, Jean-Marc, parce que ça va jusqu'au problème de la dépendance à la drogue, à l'alcool, et ça aussi c'est traité de façon très intelligente, très au-delà des clichés ou du fait de société. C'est vraiment dans le cas de ce personnage en particulier qu'on voit quelle forme ça prend chez lui, et ça c'est très fort. J'ai moins aimé dans le film l'espèce de mélange de tons, comme tu disais Rebecca au départ, on est sur quelque chose d'un peu burlesque avec le vol du chat. Ensuite, on passe à un film réaliste social, le tribunal, la désintoxication.
Fantastique, après.
Et ensuite, voilà, il y a du fantastique avec ce moment où ils arrivent dans le traitement de déchets nucléaires où on se rend compte qu'ils touchent à quelque chose qui leur échappe, qui reste d'ailleurs assez mystérieux, mais ça, pourquoi pas. Mais ces trois étapes, en effet, ça procède quand même un peu du coup de force scénaristique. Et je trouve que même visuellement, le film ne nous emmène pas dans cette dimension-là du fantastique de façon assez convaincante.
Muriel.
Je trouve le film a des défauts, mais je trouve qu'il y a une justesse du regard d'un bout à l'autre qui fait que vraiment j'ai été stupéfaite à plein d'endroits parce que il est sur un endroit dans lequel s'engouffrent beaucoup de films français, c'est-à-dire essayer de documenter une sorte de jeunesse en déshérence, je mets des guillemets partout, une France d'en bas.
À la périphérie.
Voilà, la périphérie, la France d'en bas, tout ça. On pense au Chien de la Casse, on pense à Nicolas Mathieu, enfin, l'adaptation.
Leurs enfants après eux.
Leurs enfants après eux, il y en a beaucoup d'autres. Et je trouve souvent les films concèdent beaucoup de choses au fantasme ou à l'illusion. Et là, le film ne négocie jamais que sa noirceur. Il est très très noir, c'est une sorte de teen movie très glauque qui nous fait comprendre par la mise en scène que il y a pas d'issue, il y a pas d'avenir possible. J'ai les scènes dans le fast-food au Burger King où
oui, parce que l'un des personnages interprété par Paul Kircher travaille dans un fast-food.
Et on sent là que c'est vraiment qu'il y a pas d'échappée possible à ces petits boulots horribles qui en plus abîment leur santé. À un moment, ils se retrouvent à travailler dans les déchets nucléaires. Et donc, comme deuxième film, comme geste, je trouve ça très beau de pas négocier avec sa noirceur et aussi de faire quelque chose qui me gêne beaucoup dans beaucoup de films français, c'est qu'il y a un personnage de jeune arabe qui est vraiment regardé, qui est pas négligé, qui est pas sacrifié, qui est vraiment mis à sa juste place, là où beaucoup de films français de ces dernières années ont tendance à sacrifier ce personnage-là. Et je rejoins un peu Jean-Marc, c'est-à-dire qu'il ne veut pas sacrifier, le film ne veut pas sacrifier ce personnage-là. Alors que peut-être, et donc il y a une sorte de fin en double fond, mais il y a vraiment cette amitié-là est vraiment crédible et on sent que c'est à la fois documenté par un travail sociologique. Je sais que il cite le livre de Benoît Coquart, Ce qui reste, qui est un livre qui parle de comment vivre dans la France périphérique, et à la fois quelque chose qui vient du vécu, qui vient des tripes de ces deux réalisateurs et scénaristes, puisque je pense que oui, le film est réalisé par un couple.
Pierre.
C'est un film magnifique. Vraiment, allez-y, c'est splendide, parce que tout ce que vous avez dit, et je le ressens aussi, mais surtout, ce qui m'a plu, c'est la différence entre les deux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui se découvre pouvoir vivre, et l'autre est fatalement conduit à ne pas vivre. Et c'est la différence de cette amitié qui est entre les deux. Et ce jeune homme qui voit son copain s'enfoncer de plus en plus et qui essaie de l'en sortir et n'y arrive pas, je trouve ça absolument éblouissant la façon dont c'est fait. C'est un film à la mise en scène formidable, mais vraiment formidable. Les deux acteurs sont formidables et surtout Idir Azoughli, que je trouve...
Oui, tu aurais pu avoir le premier rôle quelque part. Je pense qu'il y a eu un...
Oui,
faut y aller, quoi.
Faut pas hésiter. mais ça... Et puis, je voudrais juste insister, juste pour finir, sur la bande-son. Pas sur la musique, mais les bandes-son, quelquefois, est très sacrifiée dans le cinéma français. Et là, elle est impeccable. Elle est inquiétante tout le temps. Elle plonge les deux protagonistes dans une espèce de fatalité, comme ça. C'est très rare où souvent je sors d'un film en disant « Oui, la bande-son devient un personnage qui pousse l'un vers à se sauver et l'autre à se perdre. » C'est un film magnifique, je trouve.
Car oui, comme d'habitude, on termine avec vos coups de cœur. Jean-Marc, qu'as-tu choisi ?
My name is Orson Welles. c'est pas moi qui parle, c'est à la Cinémathèque française à Paris. C'est une exposition sur ce génie du cinéma américain Orson Welles, avec énormément de documents, beaucoup de photographies de plateaux, des photos d'Orson Welles à tous les âges de sa vie. Le storyboard de Citizen Kane, c'est très très beau de revoir plan par plan dessiné, crayonné Citizen Kane. Il y a aussi des écrans où on voit des images des films de Welles, des images des films où il a été acteur, des images de films influencés par Welles. Donc c'est vraiment une très belle exposition qui donne évidemment envie de revoir les films d'Orson Welles. Et donc, même si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Paris voir l'exposition, sur la Cinéthèque, par exemple, il y a énormément de films de Welles. Moi, j'ai revu la semaine dernière Monsieur Arcadine, et c'est vraiment sublime. Et je pensais à Nouvelle Vague de Linklater. Je me disais que, avant Godard, il y a vraiment un cinéaste qui se disait que tout était autorisé, que tout était permis, c'était Orson Welles, et qui réinvente le cinéma à chaque film et quasiment à chaque plan.
La Cinéthèque, plateforme indépendante, avec plein de films du patrimoine, comme on dit, un peu maladroitement, comme je viens de le faire. Et je vous conseille aussi l'écoute d'un podcast de On aura tout vu, émission de Christine Masson et de Laurent Delmas, qui ont consacré un épisode passionnant à Orson Welles, avec notamment Nicolas Pariser et Elias Erodi. Florence.
Je voudrais parler de Lumière pâle sur les collines, un film de Kei Ishikawa, d'après le premier roman de Kazuo Ishiguro, le prix Nobel de littérature. C'est un très beau film qui réinvente un peu ce roman, qui parle de Nagasaki dans l'immédiate après-guerre et qui parle aussi dans un deuxième niveau temporel. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas dans le film, qui se passe dans les années 80 en Angleterre. Et c'est une destinée de femme qui est jouée par deux actrices différentes selon les âges. Et dans ses jeunes années, elle est jouée par cette merveilleuse actrice de Notre Petite Sœur de Kore-eda, qui s'appelle Suzu Hirose. Donc c'est un bonheur de l'avoir grandie, de l'avoir jeune femme, dans cette très belle méditation sur le traumatisme de la bombe et sur ce que fait un peuple de sa douleur.
On rappelle le titre Lumière pâle sur les collines. Pour ce qui me concerne, j'ai choisi un film d'animation qui sort mercredi prochain. Il s'intitule Arco et c'est le tout premier long métrage d'animation, donc d'Hugo Bienvenu. Arco est le prénom d'un petit garçon qui vit en 2932 et grâce à une cape arc-en-ciel, ses parents et sa sœur peuvent se rendre dans le passé, mais pas lui parce qu'il n'a pas encore l'âge. Alors évidemment, une nuit, il pique la cape arc-en-ciel de sa sœur et il s'élance pour atterrir en 2075, dans le monde d'une gamine qui a son âge et qui se prénomme Iris. Et ce monde d'Iris de 2075 est très très proche du nôtre, ravagé par des orages violents et des incendies. Donc Hugo Bienvenu prend le parti de raconter cette menace présente, mais sans défaitisme ni angélisme. Avec ces deux personnages, le film invente un futur possible. Et surtout graphiquement, c'est magnifique, avec des inspirations qui vont des années 50 aux années 90 à aujourd'hui, évidemment. Pour ce qui concerne les voix, le doublage est très bien réussi par Louis Garrel, Vincent Macaigne et William Lebgill. Il est évidemment conseillé d'y aller en famille et je précise qu'Arco a reçu la plus prestigieuse des récompenses du Festival d'Annecy. Arco d'Hugo Bienvenu, c'est en salle mercredi prochain. Muriel.
Alors moi, c'est un documentaire en 5 parties qui s'appelle Mister Scorsese, qui est diffusé sur Apple+, de Rebecca Miller. Alors, je vais pas y aller par 4 chemins. C'est une des plus belles choses que j'ai vues cette année. C'est un documentaire avec des moyens impressionnant puisque vous avez à la fois Scorsese qui explique qui parle de sa filmographie film par film, mais aussi absolument tous ses proches, enfin tous ceux qui peuvent parler, mais de Leonardo DiCaprio à ses filles, à ses ex, à Thelma Schoonmaker, sa monteuse, qui trône sur le film comme ça, comme une sorte de dieu freudien, et qui explique Scorsese. C'est vraiment absolument bouleversant. On rentre dans le détail des scènes, on retraverse 40 ans, 50 ans de cinéma hollywoodien. Et ce que fait Rebecca Miller, et qui est absolument magnifique, qui peut-être ne pouvait venir que d'une femme, c'est qu'elle place à égalité les propos de DiCaprio et les propos des trois filles de Scorsese, des ex, des femmes en fait qui entourent Scorsese. Et ce que je trouve vraiment bouleversant et qui fait que ce documentaire, je pense, fera date, c'est qu'on sort de cette appréhension de la vie privée doit rester cachée, la vie privée n'explique pas l'œuvre. Là, la vie privée explique absolument tous les films. C'est vraiment très très beau. Je vous invite à le voir parce que voilà, c'est un des grands films de cette année.
Mister Scorsese de Rebecca Miller.
C'est ça.
Pierre.
Réédition en salle d'un film de 1955, un film magnifique de Mikio Naruse qui s'appelle Nuages flottants. C'est l'histoire d'un couple qui se retrouve à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont eu une liaison avant, puis là ils continuent dans ce Japon dévasté de l'après-guerre. Et le film, c'est leurs rencontres successives. Ils se rencontrent, ils se quittent. Elle n'arrive pas à oublier ce type qui est à la fois veule et absolument séduisant, et lui va essayer de se guérir de sa veulerie et de sa lâcheté sans jamais y parvenir. C'est absolument bouleversant, c'est splendide, c'est un mélo, bien sûr, mais vraiment, je vous le conseille, c'est ahurissant, la mise en scène de Naruse, magnifiques acteurs. Et alors, je précise, ça sort à Paris, mais aussi en province, je me suis renseigné, à Besançon, Avignon, Bordeaux, Poitiers, Rouen, bref, allez-y.
Merci Pierre Murat, Muriel Joudet, Florence Colombani, Jean-Marc Lalanne. Merci, oui, d'avoir participé à cet épisode du Masque. La semaine prochaine, nous débattrons de l'actualité littéraire. Pour la suite du programme, je précise que nous serons ici, au Théâtre de l'Alliance Française, le jeudi 30 octobre, pour parler des films en salle. Et le samedi 8 novembre, nous serons à nouveau en tournée à Brive-la-Gaillarde pour la Foire du Livre. Anaïs Reynard. a réalisé cet épisode du Masque avec Philippe Thibault, Tar Bouklifa et Mathieu Leroux. Aujourd'hui, merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation de l'émission préparée avec Zora Dégoutte. Ma bande et moi, nous vous retrouvons la semaine prochaine pour des enthousiasmes, des désaccords, une liberté critique dans tous les cas et sur France Inter, évidemment.